au bout du rouleau de Manon Pulvert, que vous décrivez, cette pièce, comme une comédie du burn-out, de l'épuisement. Quel a été votre désir de départ dans l'écriture de cette pièce, Manon Pulvert ?
C'est difficile parce que l'écriture, je ne sais pas si c'est pour tous les gens qui écrivent pareil, mais ça procède pas forcément d'un désir, ça procède plus d'une espèce de nécessité. Donc ma nécessité était sans doute celle de ressentir toutes sortes d'envie, de formuler d'une manière qui m'est personnelle, mais de formuler à la fois un désarroi et face à un certain état des rapports, des relations que j'avais envie, sur lesquelles j'avais envie de me pencher avec cette espèce de liberté que permet la fiction de théâtre, qui permet d'aller jusqu'à l'absurde, d'aller jusqu'à l'excès parfois.
Alors cette pièce pose notamment toute une réflexion autour de la question de l'amitié. Si son existence est patente à cette amitié, sa raison d'être reste obscure. Est-ce que c'est une utilité, un désintéressement ? Ou alors le signe peut-être d'une cruauté intérieure. Qu'est-ce qu'il en était justement d'explorer ce thème qui est souvent vu de manière plus positive qu'ici,
moins contre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais envie. Bon, évidemment, ce sont deux femmes. Alors, c'est à la fois cette pièce est à la fois pour moi je pourrais dire une chose et son contraire. Je pourrais dire que c'est à la fois très féminin et à la fois absolument universel. Féminin quand même, parce que je pense que l'amitié, le rapport à l'amitié pour les femmes n'est pas tout à fait encore le même que celui des hommes, sans doute pour des raisons aussi de place dans la société. Donc j'avais envie un peu de partir effectivement dans une sorte de pessimisme sur la manière dont les femmes peuvent ou ne peuvent pas se faire confiance et se donner une espèce d'immédiate estime, comme on peut le supposer, peut-être à tort ou à raison, mais je crois que c'est assez juste. Les hommes ont plus la pratique de ça, y compris au théâtre, où il y a plus facilement des duos de masculins qui sont proposés, des duos burlesques, sans qu'on se pose trop la question du bien fondé de ce duo. C'est une sorte, le duo comique masculin est plus fréquent quand même.
Ce soir sur France 2, il y avait donc le plus grand succès public que vous connaissez sans doute, que vous avez peut-être vu à Paris, qui réunit Marielle Robin et cette immense actrice Lynn Renault. Mm-hmm. Effectivement, qui est un duo comique aussi un petit peu au bout du rouleau. Mais qu'est-ce qu'il en est, par exemple, dans cette pièce aussi d'une autre dimension, parce qu'il est aussi question de dévoration, de consommation, d'anthropophagie. On sait votre attirance, Manon Pulvert, notamment pour le destin d'Ingeborg Bachmann, qui a fini effectivement brûlé en 73 dans une chambre d'eau. Hôtel. Mais qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette consommation, en fait ?
Alors, c'est vrai que, je pense qu'il y a... C'est au fond le burn-out, la consommation, se brûler dans les relations. Et c'est peut-être aussi une chose que les femmes font peut-être davantage, d'aller jusqu'à cela, d'aller jusqu'à ce stade, pour le meilleur et pour le pire, je dirais. Et bien, au fond, c'est souvent... Je pense que cette pièce est une invitation à l'inverse, c'est-à-dire c'est une invitation à l'amitié, c'est une invitation à une espèce de plus grande... Oui, non pas de froideur, justement, parce que ce serait terrible... Ce serait justement, beaucoup de femmes, je pense, on oppose à brûler. On imagine l'inverse, ce serait d'être très froid, alors que je pense que non. Il peut y avoir des tas d'autres pistes. Après, c'est vrai aussi que je suis partie de l'idée un peu c'était l'idée de Barthes, de dire qu'elles se font une scène, en quelque sorte. Et cette scène, c'est pour montrer qu'au fond, une scène n'a pas forcément de raison, mais elle a une origine. Et voilà, on peut se poser la question, je donne pas de raison à l'origine pour chacune de cette scène. Mais il y a souvent une scène, on fait une scène non pas parce qu'il y a une vraie raison, et la preuve ici, elles n'ont pas de raison de se la faire, et pourtant elles se la font parce que voilà, il y a derrière tout ça, tout un poids dont on essaie de se délivrer. Et en général, c'est la réconciliation qui permet ça, et là, il n'y aura pas de réconciliation, effectivement.
Nathalie Sarraute est une auteure qui excelle à déceler, comme elle l'appelle, les innombrables petits crimes que provoquent sur nous les paroles d'autrui. Je pense que vous essayez aussi de le débusquer ici. C'est vrai qu'on a fait la comparaison, notamment sur la nomination de ces deux personnages, F1 et F2, mais cela dit, ce n'est pas uniquement l'apanage de Sarraute. Mais par contre, par rapport à l'approche sarrautienne vis-à-vis du langage et du dialogue, est-ce que vous retrouvez quand même quelque chose d'elle dans ce que vous avez écrit ou proposé ?
Je trouve ça très flatteur. J'ai pas franchement réfléchi à cette question. On me l'a dit déjà deux, trois fois. Et je trouve ça effectivement. J'avais énormément d'admiration pour Sarro, donc je ne peux que être flattée. Si j'ai choisi moi l'absence de déterminant, c'est parce qu'effectivement, je ne voulais plus aller rentrer directement dans la situation, dans l'esprit, dans la parole. Parce que c'est vrai que j'avais aussi, cette pièce est aussi la confrontation entre la parole qui est à la fois libère et parfois enferme, entre ce paradoxe. Et il y a un peu dans cette pièce ce double mouvement. Formuler, parler est à la fois une délivrance et peut aussi être en même temps un piège. Et donc de cette espèce de course entre le temps de la libération et l'empêtrement de la chute, c'est un petit peu aussi l'objet de la pièce. Comment le langage, ce que le langage produit en nous.
Alors sur la chute, on a l'impression beaucoup de ces répliques, de ces échanges qui fonctionnent un petit peu comme dans le burlesque façon Laurel et Hardy, c'est-à-dire ce qu'on appelle le slow burn. Donc effectivement des situations qui se reprennent tout en se décalant progressivement comme un ruban de Möbius d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il en est justement de cette mise en scène que vous avez souhaité, en tout cas dans l'écriture même, d'un corps burlesque? Parce qu'on a à la fois l'impression d'un corps comme matière et puis d'une distance entre soi et son corps, et en même temps ce corps qui est empêtré, dont les humeurs vont aussi révéler des trajectoires de survie, peut-être.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avais envie aussi, d'abord, c'est pour moi aussi une petite métaphore théâtrale dans ce texte. C'est un petit peu la question aussi de comment au théâtre, quelles sont les formes. C'est vrai que je fais parfois, je crois, des petites, sans le vouloir ou volontairement, c'est pas réfléchi, mais je crois qu'il y a des petites incursions, des clins d'œil au boulevard même, et puis qui sont souhaitées de ma part, c'est-à-dire de cette production machinale, machinique du rire, et qui est quelque chose qui m'a toujours quand même fasciné au théâtre. Quand c'est bien fait, c'est quelque chose qui, je trouve, est l'essence d'un certain théâtre, pour moi, important. Et c'est pour ça que je trouvais extrêmement important que ce ne soit pas que du dialogue, que ce ne soit pas qu'un dialogue très posé, mais qu'il y ait cette espèce de contradiction et qui est celle, effectivement, de nos vies, la contradiction entre la pensée et puis le corps. Voilà, comment le corps se devient le piège. Et l'idée de son corps et la représentation de son physique, c'est donc la grande question de ces femmes, c'est comment faire avec ce corps qui se dégrade, qui vieillit, qui change, qui est aussi la grande question des actrices, notamment. Toute actrice est très cruellement confrontée à cette problématique de se voir changer et donc de devoir appréhender à la fois son corps et puis sa parole et sa carrière, éventuellement, si on parle d'une actrice.
Est-ce que justement, au plan du parcours d'une comédienne, on sent que quand même la période qui est la plus difficile pour elle pour trouver une employabilité, pour employer un terme d'un barbarisme certain, c'est la période entre 40 et 50 ans. Or, vous avez choisi de camper ces femmes dans cette période-là. Il y avait peut-être ce miroir, pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a peut-être autre chose aussi dans cette interrogation sur cet âge un peu qui est un peu le midlife crisis.
Oui, absolument. Je pense que, même pas seulement pour les actrices, mais je pense que entre 45 et 60 ans, c'est un âge difficile. Je ne sais plus qui disait qu'à 60 ans, ensuite, on redevient heureux. Et puis que ce sont des années très difficiles. C'est à la fois ces fameuses années, soi-disant, de maturité, mais aussi où c'est un peu la dernière ligne droite, d'où la cruauté. Je pense qu'on peut devenir très cruel envers soi-même, parce que c'est des périodes dangereuses. Ce sont des années dangereuses parce que, voilà, elles sont très... Et en même temps, elles sont passionnantes. Je pense que c'est un âge absolument passionnant où tout est encore possible et en même temps plus, où on est encore magnifique, mais le déclin s'amorce, mais ce n'est pas encore fait. On ne peut pas encore se mettre en retrait de la vie, mais on ne peut plus mordre dans la vie comme on pouvait le faire à 20 ans. C'est un âge de négociation avec soi-même et avec les autres. Et dans ces négociations, ça peut être très cruel.
Alors, justement, ces négociations se tiennent dans un lieu qui cite un petit peu peut-être des conventions théâtrales. Bon, c'est un salon de herself, donc il n'y a pas de personnel. En même temps, est-ce que c'est quelque chose qui peut rapporter peut-être au jardin intime du 18e, au salon de la comédie de mœurs? Vous citiez tout à l'heure le vaudeville, on peut citer aussi d'autres styles. Est-ce qu'il y avait une volonté justement de faire un petit peu monologue face à soi-même, mais en même temps monologue à vertu aussi dialogique pour une autre?
Oui, mais c'est aussi parce que, pour moi, le salon de coiffure est un lieu très théâtral. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une grande théâtralité, il y avait une grande métaphore théâtrale, où on était vraiment dans un lieu à la fois, comme au théâtre plus rien ne peut nous arriver. On se sent en sécurité. C'est un lieu de passage. On y passe à peu près le même temps qu'on passe dans un théâtre, selon ce qu'on y fait. Et puis, on est aussi mis dans une espèce de mise en scène de soi, dans une sorte de rétablissement de soi. Et on a un coiffeur qui est en fait un public. Et puis, quand on nous enlève le public, que se passe-t-il au théâtre si on enlève le public? Que se passe-t-il dans un salon de coiffure si on enlève le coiffeur? Que se passe-t-il, en fait, quand on enlève le renvoi de l'autre? Qu'est-ce qui tout d'un coup surgit quand on n'a pas cette fonction-là? C'est aussi un petit peu un petit peu la question que je me suis posée, parce que je trouve que on est dans une période très cruelle à ce niveau-là, où partout les machines font place. Ça, c'est vraiment, tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais c'est quelque chose qu'on ne mesure pas, on arrive mal à mesurer ce que ça produit effectivement dans le mental, dans le langage, dans la discussion, quand, voilà, de plus en plus on est livré à des machines, et donc on peut avoir une sorte de frénésie paradoxalement à la relation avec d'autres, parce que ce n'est plus si simple d'avoir des relations, tout simplement.
Le corps est une usine, disait Artaud, qui nécessite un équilibre, comme le dit le personnage interprété par Claudine Gabarbet, équilibre d'ailleurs au sens le plus littéral du terme dans la relation. Or, alors que ce combat pugilistique semble être peut-être parfois un combat au point, mais assez égal, il y a un moment donné où il y a une discrépance qui se crée et où le personnage interprété par Pascal Vachou, qualifié de bunker de silicone, prend l'ascendant, prend le dessus, même si ça n'est pas de version définitive, et que l'autre se place dans une position victimaire qui est en plus renforcée par ce sac en plastique qui peut rappeler, j'entends Guantanamo, qui peut rappeler beaucoup d'autres théâtres de sévices faits au corps. Pourquoi cette volonté tout de même de faire à la fin apparaître cette discrépance entre ces deux personnes?
Alors, d'une part, il y a déjà aussi, là, il faudra aussi demander au metteur en scène qui a conduit les choses dans une certaine direction, ce que d'ailleurs je trouve très intéressant. Je pense que là, il y a la fin, effectivement, il y a quand même je revenais à l'idée de la scène, qui normalement se finit par une réconciliation. Je pense qu'il y a une attente tellement grande de part et d'autre, et tellement impossible à satisfaire, et tellement ancienne, que le naufrage, à un moment donné, il est double. À la fin, finalement, personne s'en sort vraiment indemne, si ce n'est peut-être quand même, en toute fin, le personnage le plus probablement qui a le moins à perdre, en fait, elle le dit d'ailleurs, et qui, à un moment donné, est quand même dans une immédiateté de ici et maintenant, donc qui joue davantage finalement, qui n'arrête jamais de jouer, et alors que l'autre refuse le jeu, et finalement la vie, c'est un petit peu ça, la vie actuelle, malheureusement, hein. Je fais pas un éloge, c'est plutôt une espèce de réflexion sur un monde qui nous attendrait, où de tenter de s'arrêter à quelque chose, c'est la fin. Il faut pas figer, elle pense à un moment donné qu'elle est là. Elle a terminé avec tout ça, et l'autre reste plus mobile. Et il faut malheureusement une espèce de mobilité permanente, et amorale d'ailleurs, pour s'en sortir.
On parle souvent du théâtre comme d'un art devant témoin. Ici, vous le citez, c'est-à-dire que vous dites effectivement que la théâtralisation d'une vie, c'est un des personnages qui le dit, ne peut se concevoir sans témoin. Même si on a décidé d'être en rupture, d'être en divorce avec le monde, on a cet instinct de conversation avec soi et avec l'image qu'on a et de l'autre, qui quand même oblige à cette vie. Qu'en est-il justement par rapport à ce caractère de vivre entre témoins? Je ferai un prolongement avec le blog dont vous occupez sur la Tribune de Genève. Vous avez écrit la liste de Carla, et l'aventure mise en scène, naturellement théâtralisée, dramaturgisée entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, c'est la storytellisation, comme on dit, c'est-à-dire effectivement de faire de sa vie un roman fabuleux, tout en évitant tout discours. Donc, qu'est-ce qu'il en est?
Oui, on est loin de l'état contemplatif, disons ça, c'est sûr, que je pense que ça, c'est aussi un des grands. Alors, de nouveau, c'est aussi pour ça que je me préoccupe de théâtre, et que j'aime le théâtre, et que j'écris pour le théâtre. C'est qu'effectivement, je suis moi-même habitée par ça. C'est par la question de ce besoin de l'autre. C'est pour ça que j'aime l'altérité du théâtre, j'aime ce rendez-vous de l'autre, et le fait de ne... Il y a quelque chose de l'acteur qui dit, moi, j'ai besoin d'un public. Et quoi que tu veuilles, tu auras besoin d'un public. C'est une actrice qui peut dire à l'autre, mais... crois pas que tu ne peux pas t'arrêter. Et je pense qu'on a un individu a souvent à son échelle, ça peut être sa famille, ça peut être ses collègues, mais il y a une idée de la représentation de soi, et qui n'est pas mauvaise en soi, hein, mais qui est quelque part mise en péril par une espèce de distance imposée par les écrans, par la virtualité, par Internet, par que sais-je. Et du coup, il y a une espèce, oui, une espèce de frénésie de raconter son histoire pour exister, parce que soi-même, on ne suffit plus. Là, il faut se mettre en scène pour suffire. Il n'y a plus un rapport simple de juste être là et ça suffit. Il faut en faire des tonnes presque, hein, et on voit effectivement cette histoire-là de que vous venez d'évoquer, c'est vrai, c'est terrible, hein, ce besoin de ne plus, on ne peut pas juste être un président en vacances, il faut encore construire toute une espèce de fiction là autour, parce que c'est peut-être même qu'une fiction, on ne sait pas.
Mais dans la pièce, en tout cas, on retrouve ce que vous écriviez, c'est-à-dire ce personnage burlesque dans ces deux comédiennes, notamment chez Claudine Gabarbet, qui rappelle peut-être quelques écrits de Valère Novarina dans Pour Louis de Funès, hein, ce corps qui est pris, qui est agité de fébrilité. Dernière chose, vous ouvrez la pièce avec, en fait, deux voix qui parlent percées, per elles-mêmes, in petto, quasiment. Mmh. On a presque une esthétique du chuchotement, une impression un petit peu godardienne, hein, tout ne nous parvient pas non plus. Et après, ces deux voix vont quelque part se rencontrer, même si c'est de manière, disons, dans l'affrontement. Pourquoi ce choix, justement, de ce chauffement, de ces vocalises au départ, chacun pour soi?
Pour moi, c'est vraiment le discours à soi-même. Ça, je pense que c'est très important. C'est-à-dire que pour parler d'amitié et pour parler de rapport, j'avais envie d'abord de passer de ce rapport à soi, et qui est d'ailleurs le propre du coiffeur. Hein. C'est vraiment, on est face au miroir et il passe alors plein. On s'autorise dans ce lieu-là à dire des choses sur soi-même et à se dire des choses à soi-même dans le miroir, tout à fait étranges et étonnantes. Et c'est ce surnagement comme ça, de cette émergence d'une espèce de voix cruelle en soi, qui est mise en évidence. Et effectivement, elle est parlée puisqu'on est au théâtre, donc c'est presque une voix intérieure à ce moment-là, que j'avais envie de montrer que ces voix intérieures ne pourraient être qu'une seule, et à la limite elles sont effectivement interchangeables à cet endroit-là, elles sont dans un endroit similaire mais pas identique.
Et les deux se noient peut-être à certains moments donnés dans leur langage. En même temps, il y a un refus de l'une, mm-hmm. du tutoiement, mm-hmm. et de l'autre qui veut l'imposer à toute force. Est-ce que ça, c'était pas aussi une question de questionner peut-être les adresses aussi par rapport à ça, parce qu'il y a évidemment des attitudes. Oui. Qu'est-ce qui se rattache?
Tout à fait. Bon, ça, c'était aussi tout simplement le fait des relations. Là, il y a encore aussi. Moi, je pense qu'il y a une sorte de la réalité dépasse toujours la fiction. J'ai vu que maintenant il existe très sérieusement un site en Suisse où on peut louer des amis. Hein, ça, c'est absolument hallucinant. Donc, effectivement, on voit aussi avec MySpace, etc. Veux-tu être mon ami? Il y a effectivement là aussi une sorte de lutte encore autour de cette question du tu et du vous qui n'est pas anodine. Cette précipitation que veut dire le tu, c'est parfois ça peut être même une prise d'otage, et c'est encore une manière de dire je refuse la prise d'otage. Donc c'était plutôt ce harpon du tutoiement que l'autre refuse, parce qu'au fond elle attend encore autre chose. Il y a beaucoup d'attentes chez chacune, d'attentes non formulées, alors qu'elle formule des choses qui ne sont peut-être pas du tout celles qu'elles attendent. Elles attendent peut-être justement tout l'inverse, comme souvent. Mais donc ça, c'est pour moi, c'était intéressant dans cette ère du tutoiement, quelqu'un qui dit je veux pas, non, ça vous me ferez, parce que elle marche finalement dans la combine, et puis à des endroits étranges elle refuse, et là tout d'un coup elle dit ça, non, ça je marcherai pas. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans un temps où on ne sait plus, quoi. On est dans une espèce de fusion immédiate avec tout et avec n'importe qui. Et voilà, c'est une manière aussi de faire une sorte de radiographie de qu'est-ce que ça signifie finalement l'amitié. Voilà.